Vous écoutez RTL.
RTL, Maison, Jardin, Cuisine, Brocante, avec Philippe Robuchon.
Maison, jardin, cuisine, brocante, même l'été, ils sont là et en pleine forme. Salut les amis.
Salut Philippe.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors ce matin, c'est vous Laetitia et Sébastien qui nous accompagnez. On va retrouver Eglantine et Thierry demain. Jusqu'à fin août, chaque week-end, on fera un focus sur une région de France. Et depuis ce matin, vous l'avez entendu, on est
En Bretagne, voyons.
En Bretagne, évidemment. Alors Laetitia, pour commencer, direction le Nord Finistère, on va au bord de la Manche, dans la baie de Morlaix, à Carantec.
Et oui, parce que je vous emmène dans un loft les pieds dans l'eau. Du salon à la mer, il doit y avoir quoi ? 2 mètres ?
Mais comment ça a été possible de construire aussi près du bord ?
Ah, parce qu'il ne s'agit pas d'une construction moderne, mais d'un ancien chantier naval au lieu de la résistance française. C'est le chantier naval d'Ernest qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, faisait, à la nuit tombée, traverser des aviateurs alliés, des volontaires, des agents de service vers l'Angleterre. Mmh. Et alors, chaque jour, les Allemands étaient là, ils comptaient les bateaux. Ernest, qui avait bien compris qu'il n'y connaissait rien dans ce domaine-là, transformé de vieilles coques pour que le nombre reste toujours identique. Ernest habitait juste au-dessus du chantier naval avec sa femme Louise et leur fils Alain.
Elle est totalement dingue, Laetitia, votre histoire. Il s'est jamais fait prendre ?
Non, en 43, les Allemands ont cerné la maison. Par chance, ils étaient sortis. Ils se sont cachés pendant plusieurs années. Ouais. Ils ont même changé d'identité, etc. Hein, incroyable. Ouais. Ouais. Ernest, c'était le grand-père de Brigitte qui habite aujourd'hui la maison familiale et a transformé le chantier naval en maison de vacances.
Et elle a pu conserver ce qui existait ?
Elle a gardé les 3 murs extérieurs qu'elle a recouvert d'un bardage rouge, comme en Suède, ce qui a permis d'isoler la maison. Oui. La grande porte par laquelle les bateaux entraient dans le hangar a été supprimée et remplacée par une immense baie vitrée de 5 mètres de haut qui ouvre la maison sur la mer, qui est vraiment
Parce que
quand on est dans le salon, on a l'impression d'être dans l'eau.
Clairement, clairement. Et alors justement, à l'intérieur, ça ressemble à quoi ? Ça a l'air très élégant, très épuré.
Ouais, à l'intérieur, elle a conservé les petits murets qui faisaient le tour du hangar et sur lesquels les ouvriers posaient leurs outils, recouverts aujourd'hui de hêtre naturelle. Ils accueillent les objets du passé, des outils en bronze, des objets marins et aussi des coussins. À l'intérieur, toute la charpente a été changée parce qu'elle était infestée de verre. Brigitte s'est battue pour conserver le bureau en bois de sa grand-mère au sein de l'atelier et contre l'avis de l'architecte et de son mari, elle a fait enlever la porte en bois vitré pour l'emmener chez un menuisier qui a pu la traiter. Aujourd'hui, elle est repeinte en bleu et dans le hangar, franchement, elle raconte le passé.
Ah ouais, très joli. Dites, le mari de Brigitte, vous voulez pas nous en parler un peu quand même ?
Ah bah oui, j'aurais dû parce que Claude, c'est un bricoleur écolo qui a beaucoup participé aux travaux. Il a choisi du chanvre et de la chaux pour l'isolation.
Ça, c'est bien.
Des vitrages différents selon l'orientation de la maison et des huiles naturelles pour les parquets des chambres. Il a aussi fait une super cuisine parce que c'est un ancien hôtelier et cuisinier.
Alors, le nom du gîte, c'est donc le chantier d'Ernest, c'est
ça ? Oui, avec dans le salon un portrait de 3 mètres par 2,50 mètres du célèbre grand-père. Et au bout de l'impasse qui mène au gîte, vous verrez la stèle, le représentant. C'est vraiment un lieu chargé d'histoire parce qu'en 1950, le général de Gaulle est venu sur le chantier remercier Ernest et le réseau.
Oh, c'est fou.
Et cet endroit, voilà, c'est devenu, grâce à Brigitte et Claude, un lieu de rêve pour passer des vacances les pieds dans l'eau avec une vue à 180 degrés sur la mer et les couchers de soleil. En plus, Brigitte me racontait qu'avec Claude, elle accueille avec apéro et phare breton.
Ils
savent vivre ces gens-là.
C'est bien.
Alors, le site pour aller découvrir ce gîte, le chantier d'Ernest à Carantec, www.caponor.bzh avec des petits tirets entre Cap-au-Nord.
Et en fait, le site s'appelle Cap-au-Nord parce qu'Ernest disait toujours au moment de s'embarquer Cap-au-Nord.
Cap-au-Nord !
Cap-au-Nord, vous faites-le que moi.
Quelle histoire,
super.
Quelle histoire.
Alors à nous, Sébastien.
Avec plaisir, Philippe.
Toujours en Bretagne, ce n'est pas à vous que je vais apprendre ça. La Bretagne, vue de l'assiette, franchement, c'est le pied. Quoi.
Ah, je vous autorise cette familiarité, Philippe, absolument. Vous avez raison, le pied, le grand pied, le triple pied, le méga panard. on ne peut pas, quand on est en Bretagne, évidemment, faire l'impasse sur les flots. La mer, vous savez, on dit parfois le miroir.
Ah, oui.
Comme on dit le terroir, il y a le miroir désormais. Bref, l'océan Atlantique et toute cette pêche miraculeuse. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, les amis, que c'est en été, figurez-vous, je vous en parle pas souvent, c'est en été que le homard est en pleine forme et au meilleur de son prix.
Surtout, oui.
Pas comme à Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, la Bretagne, c'est également, on le sait tous, le sarrasin fabuleux qui fait les galettes grandioses. Et alors, quand on les emballe d'une saucisse, c'est encore mieux. Surtout si on s'est fait, la galette saucisse.
Le
marché des lys à Rennes le matin, vous savez, ça creuse un petit peu. Voilà, donc la Bretagne, c'est clair, on l'aime d'amour parce qu'elle a donné au monde entier l'andouille de Guémenet, le Queen Amann, les fraises de Plougastel et évidemment les galettes de Pont-Aven pour le fan de Jean-Pierre Marielle que je suis.
Je sais pas pourquoi, mais je sens que vous allez nous faire forcément du poisson.
Du poisson, parce que pour la galette saucisse, vous n'avez pas besoin de moi.
Non, merci.
Laetitia, dans mon esprit, qui dit Bretagne dit sardines.
J'adore les sardines.
Bah oui, c'est bon, et je parle pas là évidemment de conserves. Alors, comme c'est l'été, il est temps de sortir évidemment les barbecues et de cuisiner au grand air. Car, vous le savez, la sardine sur la braise, ça sent un petit
c'est
peu.
C'est sûr que voilà. Le voisin en profite.
Voilà, donc on va se faire une sardinade à la bretonne ce matin. Alors, je sais, vous allez me dire, la sardinade, c'est un plat du Sud. Vous n'avez pas tort, évidemment. Mais n'oubliez pas, les amis, que la Bretagne est quand même une terre de voyageurs, et ce, depuis la nuit des temps. C'est pour ça que je vais accompagner cette sardinade d'un condiment bien épicé, en hommage à cette vieille tradition, vous savez, des échanges avec les comptoirs, Chandernagor, Pondichéry, au XVIIe siècle. On va faire une chermoula.
Une chermoula,
chermoula, vous ne connaissez pas ?
Non.
Alors, c'est vrai, Philippe, on est plus proche de l'Afrique du Nord que des Indes, mais je vous ai dit, c'est vraiment une recette en forme de clin d'œil. L'idée de la chermoula est hyper simple. Vous prenez un bouquet de coriandre fraîche, d'accord ? Et un demi-bouquet de persil plat. Ouais. Tout ça, rincé, séché, ça va sans dire. Vous les mettez dans le bol du mixeur avec deux gousses d'ail, une cuillère à soupe rase de paprika, une petite cuillère à café rase de piment d'Espelette, une autre cuillère à café rase, cette fois-ci de cumin, du sel, de l'huile d'olive, et vous allez commencer à mixer ça longuement jusqu'à obtenir une sauce assez fluide, mais pas trop. Hein. Ouais. D'ailleurs, si vous souhaitez, si vous voulez détendre un petit peu, un tout petit peu d'eau ou un tout petit peu de vinaigre de vin, ça c'est très agréable avec, ou du vinaigre de xérès, hein, ce que vous avez sous la main. Et là, cette préparation, cette espèce de pâte, donc un peu fluide, vous allez simplement la mélanger à la fin avec vos sardines grillées, il faut à la braise. Alors, n'oubliez
pas... C'est pas une marinade ?
Non, non, pas du tout. Non, non, ça va
c'est
condimenter. Exactement, ouais. Ces sardines, vous allez les cuire, évidemment, entières, pas étêtées, rien du tout, donc elles doivent être méga fraîche, absolument. Non, on les vide pas, on les mange telles quelles quand on fait une sardinade. Et alors, pour terminer
les
sur les épices, mais oui, mais ça se mâchouille. Elles sont tendres, les arêtes des sardines, Laetitia. Pour terminer sur les épices en Bretagne, si vous êtes par là-bas, essayez de mettre la main sur ce merveilleux mélange qui a été inventé au 19e siècle, figurez-vous, par un pharmacien doré, loin de la Trinité-sur-Mer.
Et son petit port de Saint-Gustan.
Le fameux carigos, qui est un mélange cari qui évoque évidemment le curry. Ouais. Et alors ça, c'est typiquement, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs, ça avec des moules à la crème, par exemple, ou avec un beurre blanc, pour aller avec le homard grillé sur la braise dont je vous parlais à l'instant, c'est à se relever la nuit. Le curry gosse, K-A-R-I, plus loin, gosse, G-O-2-S-E. C'était le nom du pharmacien, si ma mémoire est bonne.
À Auray. Donc, voilà, alors c'est noté tout ça, on retient le nom également de votre préparation pour accompagner les sardines grillées,
ouais,
le chermoula.
La chermoula.
Merci Sébastien, demain toujours en Bretagne, on ira... avec Églantine et Thierry, découvrir d'autres trésors.
Très bien.
Vous écoutez RTL.